VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, excellent début de journée à l'écoute de VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pinault et Michel Joseph. Bonjour Michel.
Bonjour Nicolas.
À la une de notre émission en ce mardi matin.
La présidente de la transition tape du poing sur la table à Bangui et demande une meilleure sécurisation de la capitale centrafricaine.
Nous vous emmènerons aussi à Beni dans l'est de la RDC où notre correspondant est allé à la rencontre des déplacés de la cité d'Oicha.
Ici, nous sommes au camp Bimbi, aux environs de la cité de Ouicha, où environ 400 ménages vivent dans des taudis couverts de feuilles de bananier.
Ayman al-Zawahiri refait parler de lui. Le chef d'Al-Qaïda appelle à attaquer les Occidentaux et Israël dans une nouvelle vidéo.
Dans notre partie magazine, retour sur l'incendie du grand marché de Cotonou au Bénin.
Aucun policier ne poursuivait un véhicule. C'était faux. Les policiers étaient au carrefour.
Et comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Écho et le journal des sports. 10 joueurs en lice pour le titre de joueur africain de l'année de football et la 5e étape du Tour du Faso. Mais tout d'abord sur VOA Afrique, le journal.
En Centrafrique, critique à peine voilée de la présidente de la transition contre la MINUSCA. Catherine Samba Panza a appelé hier les forces militaires internationales à une action vigoureuse face aux violences qui ont fait plusieurs dizaines de morts depuis fin septembre à Bangui. On l'écoute.
Nous exhortons les forces internationales à une action vigoureuse afin que Bangui soit sanctuarisé à l'approche d'événements importants. La visite du pape et les élections doivent être vécues par les Centrafricains comme des événements unificateurs et refondateurs à vivre dans l'apaisement. Face aux dangers qui menacent la population, j'ai instruit nos forces de défense et de sécurité nationale de se joindre aux troupes internationales pour s'interposer entre les parties en conflit et frapper les récalcitrants qui persistent dans la voie de la violence.
Catherine Samba Panza, la présidente centrafricaine qui s'exprimait depuis Bangui.
Et nous reviendrons sur la situation en Centrafrique dans la seconde partie de notre émission. Autre pays de la région en crise, le Burundi. La violence s'intensifie à l'intérieur du pays et dans la capitale avec deux corps découverts hier dans Bujumbura. Le président Pierre Nkurunziza lance un dernier ultimatum de 5 jours à ceux qui possèdent des armes pour les rendre. Sinon, affirme le président burundais, la police et l'armée passeront à l'action.
À Brazzaville, la tension retombe un peu après la décision des deux principales coalitions de l'opposition de suspendre leurs actions de désobéissance civile pour contester le référendum. Des précisions avec Eddy Sango.
Les Fonds républicains pour les respects de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, ainsi que l'Initiative pour la démocratie au Congo, ont annoncé hier la suspension de leur programme d'action dans un souci d'apaisement. Ces deux coalitions de l'opposition avaient appelé à des journées villes mortes tous les lundis, jeudis et vendredis pour contester les résultats du référendum. Vendredi déjà, elles avaient renoncé à des marches pacifiques, préférant rendre hommage aux personnes tuées le 20 octobre dans la répression des manifestations. Ces violences ont fait 4 morts selon les autorités et 17 selon l'opposition. D'après les résultats annoncés mardi par les ministères de l'Intérieur, les Congolais ont approuvé à plus de 92% un projet de nouvelle constitution qui permet à M. Sassou Nguesso de se représenter en 2016.
En Somalie, nouvelle attaque revendiquée par Al-Shabaab. Les djihadistes affirment avoir tué lundi 30 recrues de l'armée nationale dans une embuscade au sud-ouest de Mogadiscio, la capitale.
Nouvelle mise en cause de la France dans le génocide rwandais de 1994. L'ONG Survie dépose plainte pour complicité de génocide au Rwanda visant des responsables français de l'époque. John Linden nous en dit plus.
La plainte contre X vise des responsables français en lien avec les crimes contre l'humanité commis au Rwanda. Elle a été déposée hier lundi au pôle génocide et crimes de guerre au tribunal de grande instance de Paris. L'association Survie doit d'ailleurs donner une conférence de presse aujourd'hui. Une enquête est déjà en cours en France sur le rôle de l'armée française pendant les tueries. Elle avait été déclenchée par une autre plainte déposée en 2005 par des rescapés qui mettent en cause l'opération turquoise. Le président rwandais Paul Kagame a souvent accusé la France et Paris a toujours démenti toute implication dans ces massacres.
Shell accusé de fausses affirmations sur la dépollution du delta du Niger. Un rapport publié par des organisations de défense des droits de l'homme dénonce les fausses affirmations du géant pétrolier sur l'étendue de ses activités de dépollution dans le sud du Nigeria. Ces ONG, dont Amnesty International, accusent Shell de n'avoir pas suivi les recommandations de l'ONU qui avait établi en 2011 l'étendue de l'impact de la pollution pétrolière dans l'Ongoniland, une région au cœur du delta.
Oscar Pistorius a de nouveau rendez-vous avec la justice sud-africaine. L'ancien champion paralympique va être fixé sur son sort ce mardi. En effet, le parquet a fait appel de sa condamnation à 5 ans de prison dans l'espoir d'obtenir une peine plus sévère. Pour rappel, Pistorius était sorti de prison par anticipation le 19 octobre dernier et placé sous un strict régime de liberté surveillée.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le chef d'Al-Qaïda appelle à frapper l'Occident et salue les attaques en Israël. Ayman al-Zawahiri a appelé à lancer de nouvelles attaques contre les pays occidentaux et salué celles menées par des Palestiniens en Israël dans une vidéo diffusée sur Twitter. Al-Zawahiri appelle également à frapper les États-Unis sur leur propre sol et à s'en prendre à leurs intérêts partout dans le monde.
Les causes du crash d'un avion russe en Égypte restent inconnues, tandis que les recherches continuent dans le Sinaï. L'analyse des deux boîtes noires devaient commencer mardi au Caire, selon des responsables égyptiens.
Les autorités russes ont confessé leur ignorance sur l'implication éventuelle du groupe État islamique. Idem à Washington, nous ne savons pas vraiment si l'EI est impliqué, a confié le chef du renseignement américain James Clapper, estimant improbable que le groupe État islamique ait les moyens d'abattre un avion commercial en vol, mais précisant ne pas pouvoir l'exclure. Les précisions de Lionel Gaïma.
Pour la compagnie russe Metrojet, le crash de son appareil ne pouvait être que la conséquence d'une action extérieure. L'hypothèse d'une bombe à bord est tout à fait plausible. L'extrême dispersion des débris dans le vaste désert laisse une seule certitude aux spécialistes. L'avion s'est disloqué en plein air et n'est pas tombé d'un seul morceau. L'appareil a décollé samedi à l'aube de la station balnéaire de Sharm el-Sheikh avec 224 personnes à bord à destination de Saint-Pétersbourg. Après une vingtaine de minutes de vol, il a disparu des écrans radars. Les boîtes noires ont été retrouvées. En attendant les résultats de l'enquête, trois compagnies aériennes, Air France, Lufthansa et Emirates, ont décidé de ne plus survoler le Sinaï.
La Commission parlementaire britannique des affaires étrangères s'est prononcée contre des frappes en Syrie. La Commission explique dans son rapport que Londres devrait plutôt se concentrer sur les efforts diplomatiques pour y ramener la paix. Actuellement, l'armée britannique effectue des frappes contre l'organisation État islamique en Irak dans le cadre de la coalition internationale menée par les États-Unis. Des frappes que le Premier ministre David Cameron aimerait étendre à la Syrie.
Et le conflit en Syrie fait rage. Depuis plus de 4 ans, il a déjà fait plus de 250 000 morts. À ce sujet, Staffan de Mistura, émissaire de l'ONU pour la Syrie, a appelé hier les différentes parties au conflit à instaurer un cessez-le-feu afin de soutenir les efforts diplomatiques. Les précisions de Dili Diko.
Staffan de Mistura a plaidé hier, lors d'une conférence de presse à Damas, en faveur d'un cessez-le-feu afin de mettre un terme à 4 ans et demi de guerre en Syrie. Dans son allocution, il a insisté sur l'importance de faire des efforts pour la paix. Ce dont nous avons besoin, ce sont aussi des résultats sur le terrain, des cessez-le-feu, une réduction de la violence. Sa présence dans la capitale syrienne lui a aussi permis de s'entretenir avec le ministre des Affaires étrangères syrien à qui il a pu faire le compte-rendu des pourparlers de Vienne. Aucune des parties en conflit en Syrie n'a été conviée dans la capitale autrichienne vendredi dernier. Une nouvelle réunion est prévue en novembre.
En Irak, le Parlement a adopté une mesure limitant les pouvoirs du Premier ministre dans la mise en place de réformes au sein de l'administration. Il sera désormais obtenir au préalable l'aval des législateurs. La décision prise ce lundi ne vise pas directement l'actuel chef du gouvernement, Ader al-Abadi. Précisons au Parlement, l'objectif soutient les députés et la séparation des pouvoirs.
Et on termine avec l'armée américaine qui continuera ses manœuvres en mer de Chine, comme le déclare depuis Pékin l'amiral Harry Harris, peu de temps après le passage d'un navire de guerre des États-Unis dans les îlots dont la Chine dispute la souveraineté. Voilà, c'est la fin de ce journal ce matin sur VOA Afrique. Tout de suite, place à la Minute Éco qui vous est présentée par Nathalie Barge.
Le nouveau président de la Banque africaine d'import-export, Benedict Orama, a déclaré qu'Afreximbank allait former un partenariat avec le groupe Dangote en vue de développer les échanges commerciaux sur le continent, rapporte Info Plus Gabon. Lors d'une rencontre à Lagos avec Aliko Dangote, le président de la multinationale africaine, le docteur Orama, a déclaré qu'il s'emploierait à promouvoir les activités commerciales entre pays africains pour stimuler l'intégration économique. Le Cameroun et la Banque africaine de développement ont signé un accord de prêt de plus de 30 milliards de francs CFA pour le projet Dorsal à fibre optique d'Afrique centrale, rapporte l'APA. La BAD contribue au financement du projet à hauteur de quelque 43 millions de dollars et l'État camerounais déboursera 8 170 000 dollars. L'Association africaine de l'eau a annoncé dans un communiqué la tenue du prochain Water Show Africa du 15 au 16 mars 2016 à Johannesburg. Le monde d'aujourd'hui évolue d'une telle façon que si l'on y prend garde, certaines ressources naturelles, apparemment abondantes et disponibles, vont finir par manquer, a souligné Sylvain Usher, le directeur de l'association panafricaine.
Merci Nathalie, place à présent au sport. Pour en parler, nous retrouvons Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nicolas.
Bagassi, l'information de la nuit nous vient du Chili. On parle de football, la Coupe du Monde des moins de 17 ans. On connaît désormais les adversaires des deux derniers pays africains encore en lice. La Belgique a battu le Costa Rica 1-0 et sera donc opposée au Mali en demi-finale. Quant au champion en titre nigérian, il rencontrera le Mexique qui a dominé l'Équateur 2-0. On rappelle, Bagassi, que ces deux demi-finales auront lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Allez, retour sur le continent pour parler avec vous du joueur africain de l'année.
Oui, la Confédération africaine de football a dévoilé hier lundi les 10 nommés pour recevoir le prix du meilleur joueur africain. Et sur cette liste, on trouve entre autres le Ghanéen André Ayou, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang ou encore les Ivoiriens Serge Aurier et Yaya Touré. Yaya Touré, quadruple détenteur de ce titre. Cette récompense sera décernée le 7 janvier à Abuja, au Nigeria, à l'issue du vote des sélectionneurs nationaux ou des directeurs techniques nationaux des 54 pays membres de la CAF.
En Europe ce soir, début de la quatrième journée de la Ligue des Champions.
Oui, dans le groupe A, Shakhtar Donetsk joue contre les Suédois de Malmö. Le choc entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain de l'Ivoirien Serge Aurier. Dans le groupe B, Manchester United reçoit le Russe du CSKA Moscou, tandis que le PSV Eindhoven rencontre Wolfsburg. Dans le groupe C, choc entre le Benfica et Galatasaray et Astana affronte l'Atlético Madrid. Dans le groupe D, Mönchengladbach joue contre la Juve de Turin, tandis que le FC Séville aura fort à faire avec le leader de la Premier League anglaise, Manchester City, de Yaya Touré.
En Angleterre, ça va mal pour José Mourinho, qui écope d'un match de suspension.
Oui, l'entraîneur de Chelsea, José Mourinho, a écopé d'un match de suspension ferme et d'une amende de 40 000 livres, soit 56 000 euros. Mourinho a été sanctionné pour son comportement et ou son langage à la mi-temps envers les arbitres du match contre West Ham dans ou autour du vestiaire. C'est ce qu'a indiqué la fédération anglaise, précisant que le technicien avait reconnu les faits.
On parle cyclisme à présent, Bagassi, le Tour du Faso, la cinquième étape ce mardi.
Oui, une cinquième étape entre Kudugu et Boromo, longue de 115 km. Le Burkinabé Salifou Yerbanga a lui remporté hier la quatrième étape du Tour du Faso, couru entre Ouagadougou, la capitale, et Kudugu, dans le centre-ouest du pays. Une distance de 97,5 km que Salifou Yerbanga a remporté en 2h29 minutes 4 secondes. Au micro de Salif Kabore, notre correspondant, il explique avoir suivi les conseils de son capitaine.
J'ai parlé avec mon capitaine Aziz Nikema. Il m'a dit qu'il faut conserver la course. Tu vas contrôler pour suivre la SAP. En tout cas, je suis contrôlé, je suis suivi la SAP. À la dernière minute, 25 km, nous SAP 2, Suisse 1, moi. En tout cas, j'ai roulé 35 secondes jusqu'à arriver. En tout cas, je suis gagné. Je suis la chance, je félicite tous les coureurs, les drapeaux de Burkina Faso, je félicite les fédérations de Burkina.
Et pour terminer, Nicolas, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Oui, Cleveland qui s'impose à Philadelphie 107 à 100 à noter les 22 points de LeBron James. De justesse, Brooklyn domine Milwaukee 88 à 86. L'autre club new-yorkais, les Knicks, battu chez eux par San Antonio 84 à 94. Et on remercie Bagassikoura pour la page des sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. On commence par la situation humanitaire qui reste préoccupante dans la région de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Notre correspondant dans la région, Charlie Kasereka, s'est rendu sur place à plus de 400 km au nord de Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu. C'est dans la cité de Oicha qu'il a notamment pu rencontrer les déplacés fuyant les massacres attribués aux rebelles ougandais de l'Alliance des Forces démocratiques. Ces déplacés vivent dans la misère, comme l'a constaté notre correspondant. Voici son reportage depuis Beni.
Ils sont près de 10 000 ménages dans toute la région de Beni, selon les chiffres des organisations de défense des droits humains dans cette région. Ici, nous sommes au camp Bimbi, aux environs de la cité de Ouicha, où environ 400 ménages vivent dans des taudis couverts de feuilles de bananier. D'autres occupent la dizaine de salles de classe qu'ils libèrent la journée pour laisser place aux enseignants. Jeanne Maskini, la cinquantaine, est parmi les derniers arrivants. Son mari a été massacré par des présumés ADF.
C'était aux environs de 17h du soir. Nous avons entendu des bruits près de notre maison. Je suis sortie en fuyant avec d'autres voisins jusqu'à une position militaire qui était proche. Et c'est là que nous avons passé la nuit. Le matin, je suis revenue dans le village avec les militaires et j'ai retrouvé mon époux découpé. Je l'ai enterré avant de venir ici.
À quelques pas de nous, c'est un autre rescapé qui s'approche. Douleur intense, touché psychologiquement, Palou Kumayaka, venu du village de Mamiki, s'efforce de nous parler.
Il pleuvait et des balles crépitaient. Ces bandits ADF sont entrés dans notre maison, ils m'ont retiré de là après m'avoir ligoté. Ensuite, c'était ma femme. Moi, j'ai réussi à m'échapper, je ne sais pas par quel miracle. Dès qu'aujourd'hui, ma femme et l'un de mes enfants sont portés disparus.
Parmi ces déplacés, il y a une centaine de pygmées. Ces peuples habitués à la vie dans la forêt pourraient la misère est indescriptible après avoir effectué ces changements de régime alimentaire. Les organisations de la société civile sur place alertent sur la situation humanitaire dans cette région. Maître Omar Kavota coordonne l'une de ces organisations.
Ce qui se passe aujourd'hui à Beni est similaire à ce qui se passe en ce jour au Cameroun, au Nigeria. Nous voudrions que les efforts qui sont menés à solidarité à travers les autres États, que cet esprit anime nos partenaires à venir appuyer l'action militaire.
Pour l'officier Marc Azoukaï, responsable de la cellule de communication FRDC dans l'opération Sokola 1. Toutes ces familles doivent s'armer de patience le temps que les FRDC ratissent le terrain. Marc Azoukaï.
Vous savez qu'ici, nous ne sommes pas en train de mener une guerre classique. C'est une guerre asymétrique. Nous avons affaire à des terroristes qui opèrent à petits groupes. Donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui ou conseiller aux déplacés de rentrer tout de suite parce que quand les choses rentreront dans l'ordre, on va demander à la population et surtout aux déplacés de regagner leur contrée.
La situation sécuritaire dans la région de Beni reste volatile. Signalons qu'en début du week-end dernier, une embuscade a été tendue sur un véhicule civil faisant 4 morts. La société civile dans la région, qui a comptabilisé plus de 450 morts depuis plus d'une année, attribue ce massacre à la rébellion ougandaise des ADF. Charlie Kasereka, de retour de Ouicha, dans la région de Beni, pour VOA Afrique.
Voilà, et vous retrouvez également les photos prises par notre correspondant Charlie Kasereka sur notre site internet voaafrique.com. Autre groupe armé opérant sur le continent africain, Boko Haram, le groupe nigérian change de stratégie au Cameroun. Depuis quelques mois, les djihadistes semblent tourner le dos aux attentats suicides au profit des attaques, pillages et autres assassinats. Coïncidence ou non, des soldats américains sont présents sur le sol camerounais pour aider l'armée camerounaise et la force sous-régionale. Moki Edwin Kinzeka est le correspondant de VOA Africa Yaoundé.
Depuis quelques mois, l'on n'entend plus parler d'attaques de Boko Haram lourdement armées. D'après Sally Dairou, élite du Nord et députée à l'Assemblée nationale du Cameroun, le groupe djihadiste est toujours en activité, bien qu'ayant changé de méthode d'incursion.
Ils ont tué tous les bergers qui étaient partis avec les bœufs là-bas et les bœufs se sont retrouvés en divagation. Et personne ne pouvait aller là-bas pour aller récupérer un seul bœuf. Et ça fait des milliards que nos populations ont donc perdu.
Boko Haram met donc de côté les opérations d'affrontement en masse contre l'armée camerounaise pour se consacrer au pillage, à la destruction des biens et à la pose des mines. Pour le ministre camerounais de l'administration territoriale, René Emmanuel Sadi, ce dernier type d'incursion paralyse l'économie.
Le prix du carburant frelaté importé du Nigeria et très utilisé localement est régulièrement en hausse, avec ses répercussions sur l'ensemble de la chaîne économique. Divers services publics, parapublics, privés, ainsi que des entreprises commerciales sont paralysés par les membres de la secte Boko Haram. Les échanges commerciaux avec le Nigeria ont nettement reculé.
De son côté, le ministre camerounais de la communication, Issa Tchirouma Bakary, pense que ce changement de mode opératoire est un signe de souffrement de Boko Haram dont les jours sont désormais comptés.
Je voudrais indiquer ce groupe terroriste qui, de toute façon, est voué à la disparition, ne vise qu'un objectif dans l'immédiat, celui de répandre la peur et la psychose parmi nos populations. Mais c'est ignorer la détermination du peuple camerounais tout entier qui ne se laissera jamais prendre au piège de ce stratagème.
Pour donner une réponse à la nébuleuse, une batterie de mesures est opérationnelle. Mise en place des comités de vigilance en plus de la force sous-régionale et les 300 soldats déployés sur le sol camerounais par le président américain Barack Obama. Moki Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Les commerçants de Cotonou sont en deuil, parlons-en. Le grand marché de la ville a été ravagé par les flammes. Beaucoup s'interrogent sur l'origine du sinistre. Comme l'a constaté notre correspondante Ginette Fleur à Dandé, voici son reportage.
Plus de 800 boutiques emportées dans la spirale d'un feu qui, comme par enchantement, a démarré à 1h du matin. Malédiction, récrimination, les commerçantes sont inconsolables. L'effort de toute une vie emporté dans la rage d'un incendie causé, selon certains témoins, par les policiers, espère un rançonnement à la poursuite d'un camion chargé d'essence frelatée. Le commissaire de police de la zone s'insurge contre ces accusations et précise.
Aucun policier ne poursuivait un véhicule. Ce que les gens disaient que les policiers poussaient le véhicule pour rançonner, c'était faux. Les policiers étaient au carrefour.
De cette partie du marché tombée dans la rage de l'incendie, il ne restera que débris, fumée et des centaines de personnes inquiètes se posant des questions sur leur avenir. C'est dans cette ambiance faite de pleurs, de cris et de douleurs que le chef de l'État béninois s'est présenté sur le site apportant son soutien aux femmes, se tapant la poitrine vigoureusement en signe de désespoir. Devant l'étendue des dégâts et la douleur de ces nombreuses femmes, le chef de l'État a même coulé des larmes.
Vous avez vu mon état d'âme. Même si c'est une seule boutique concernée, mon cœur sera atteint. À plus forte raison, les boutiques occupées, en plus par les plus pauvres de notre pays. Ce que moi j'ai vu là, que Dieu nous en garde. Je confie ce marché à Dieu, le Père Céleste, pour qu'il veille sur le reste. C'est tout un peuple qui vit là. Mieux, les femmes, nos chères mamans, qui constituent le cœur de l'humanité. C'est possible. Il y a la volonté politique.
Thomas Bouniaï a promis la reconstruction dans son entièreté de ce marché, l'un des plus grands de la sous-région ouest africaine, vitrine du Bénin. En attendant la reconstruction, l'incendie fait bien la fête des présidentiables qui font le rang à coups de millions de francs CFA en guise de soutien aux sinistrés. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique en direct depuis Washington. Situation sécuritaire toujours préoccupante en République centrafricaine, en particulier à Bangui, la capitale. Je vous le disais dans le journal, la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, a appelé les forces internationales présentes dans le pays à déployer des efforts sécuritaires supplémentaires, notamment en érigeant, je cite, des postes avancés dans tous les quartiers de Bangui. Pour faire le point sur la situation, Pascaline Magalé a joint le nouveau ministre de la Sécurité publique, Pierre Chrysostome Sambia.
Disons que la situation sécuritaire se présente comme pas tout à fait rapportée dans les médias internationaux. Hein. On dramatise un tout petit peu, mais la réalité est celle-ci. Nous connaissons une situation préoccupante au niveau de Bangui. Le gouvernement s'investit avec l'appui de nos partenaires sur place à rétablir l'ordre. Et ramener la quiétude, la cohésion au sein de la population.
Y a-t-il moyen de ramener la sécurité le plus vite possible?
Vous savez que le pays n'est pas encore sorti de cette crise profonde que vous connaissez tous. La volonté du gouvernement centrafricain, elle est là, elle est présente. Tous les ministres concernés et par la sécurité et l'action sociale, l'action humanitaire s'investissent dans la recherche des voies et moyens pour ramener la sécurité. Toujours est-il que nous sommes limités dans nos moyens et les démarches entreprises auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue d'obtenir l'allègement de l'embargo et la restitution de nos armes qui sont à la disposition des forces onusiennes. Les démarches sont entreprises et nous attendons beaucoup la décision qui sera prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Pierre Chrysostome Sambia, il était joint à Bangui. Vous écoutez VOA Afrique sur le 101.7 en FM. Singila à tous nos auditeurs banguissois.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Allez, retour aux États-Unis pour parler du 14e amendement de la Constitution qui accorde automatiquement la nationalité américaine à tout individu né sur le sol américain, d'où le phénomène du tourisme de maternité dénoncé notamment par certains candidats à la primaire républicaine en vue de la présidentielle de 2016. Concrètement, comment ça marche? Le principe, des femmes enceintes viendraient aux États-Unis uniquement pour y accoucher afin que leurs enfants naissent américains. Certains hommes politiques suggèrent donc une modification du 14e amendement. Les explications avec Isha Sarai.
Le mois dernier, une Taïwanaise a accouché dans un avion en route pour Los Angeles. L'avion étant déjà dans l'espace aérien américain, le bébé a obtenu la nationalité américaine. Cela n'a pas pour autant empêché la mère d'être expulsée vers Taïwan, les autorités l'accusant d'avoir menti concernant la durée de sa grossesse. Elle n'est pas la seule maman soupçonnée de venir aux États-Unis en dissimulant une grossesse à terme. En mars, des agents fédéraux ont effectué une vingtaine de descentes en Californie du Sud, dans des maisons offrant des services de voyage et logement pour des étrangères enceintes et voulant accoucher aux États-Unis. Parfois appelées hôtels maternité, ces structures clandestines attirent en particulier des Chinoises qui paient de 15 000 $ à 50 000 $ chacune. Des enquêteurs en charge de cette affaire examinent la possibilité d'infractions criminelles, mais des enfants nés de telles femmes seraient des Américains, explique l'avocat texan James Ho.
Birthright citizenship applies to everyone.
Le droit du sol s'applique à toute personne née aux États-Unis et soumise aux lois américaines, toute personne qui était née d'obéir aux lois américaines, en faisant tout de même remarquer l'exception concernant les enfants des diplomates étrangers qui gardent la nationalité de leurs parents.
Mais le professeur de droit John Eastman croit que la loi est mal interprétée. La phrase clé, selon lui, est « soumis à la juridiction des États-Unis ».
Dans le contexte moderne, si on n'est pas ici légalement, on n'a pas ce droit de citoyenneté automatique que garantit le 14e amendement.
En tant que visiteur temporaire, ni les étrangères enceintes qui viennent aux États-Unis pour accoucher, ni leurs enfants ne doivent allégeance aux États-Unis.
Ils doivent allégeance au pays de leurs parents. Cette mauvaise interprétation du droit du sol a donné lieu à l'émergence de l'industrie du tourisme de maternité.
Quelques candidats républicains à la Maison-Blanche, notamment l'homme d'affaires Donald Trump et le sénateur de Texas Ted Cruz, veulent supprimer le droit du sol. Un amendement constitutionnel est nécessaire pour ce faire. Un processus long et compliqué qui ne sera pas initié de sitôt.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Mais Roger, que vous retrouvez hein, tous les soirs cette semaine en direct de Kinshasa avec notre partenaire Top Congo FM. Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Michel Joseph, Nicolas Pinault à la présentation. Excellente journée à tous. Avant de se quitter, on va saluer Gooch Oboa depuis Brazzaville et Salif Diakité au Mali. Comme eux, retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.